Il est tout juste 18h. Très belle fin de journée avec Europe 1.
Europe 1 soir, 18h-20h. Emmanuel Faux.
Bienvenue à tous. À la une de l'actualité ce soir, l'arrestation du pédophile espagnol. Il avait été libéré au Maroc et le roi Mohamed VI avait annulé sa grâce devant le tollé suscité. Le souverain chérifien qui a déjà fait tomber une tête en limogeant le patron de l'administration pénitentiaire. Nous y revenons dans un instant. Bonsoir Marielle Fournier.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le drame de Perpignan et le temps des questions. Pourquoi Francisco Benitez s'est-il pendu au petit matin? Geste de culpabilité ou geste de désespoir par rapport à la disparition de sa femme et de sa fille? C'est ce que nous verrons avec Guillaume Bier. Faut-il interdire le port du voile à l'université? La proposition émane du Haut Conseil pour l'intégration pour éviter les conflits qui ont tendance à augmenter dans les facultés. Explication d'Anne Le Gall et Lionel Lucas, le député UMP des Alpes-Maritimes, sera notre invité. Les entreprises vont-elles devoir payer davantage pour que la pénibilité du travail soit prise en compte pour le calcul de la retraite? Le système risque de tourner au casse-tête pour les entreprises, notamment dans le bâtiment. La bourse de Paris finit en légère hausse de 0,1% à 4050 points. 10 000 hectares au total ont été touchés par les orages. Vendredi soir en Gironde, certaines parcelles ont vu leurs vignes totalement détruites. Les précisions de Carole Ferry. Les restaurateurs ont le moral en berne, comme la consommation qui a chuté au mois de juillet. Les vacanciers sont très près de leurs dépenses cette année. Au Maroc, donc, les nouvelles, la météo, et ça tourne sérieusement à l'orage.
Et oui, Marielle, avec 8 départements du centre-est en alerte orange orage violent à partir de 5h la nuit prochaine et jusqu'à 16h demain. Ils vont cogner particulièrement en seconde partie de nuit avec de la grêle et du vent jusqu'à 100 km/h les rafales de vent. Ils vont se calmer en fin de matinée pour reprendre en début d'après-midi, se réactiver entre la Bourgogne et la Lorraine.
Valérie Darmon qui revient pour des prévisions complètes dans 25 minutes. Vos rendez-vous jusqu'à 20h, 18h32, les carnets du monde d'été de Sophie Larmoyer pour une balade insolite à Londres. 18h35, décryptage de l'alerte terroriste qui a conduit les États-Unis à fermer une vingtaine d'ambassades à travers le monde. Pourquoi la France et la Grande-Bretagne ont-elles fait pareil et aux mêmes dates pour leur ambassade au Yémen? Jean-Charles Brizard, spécialiste du renseignement et consultant international, sera l'invité d'Europe 1 soir. 18h50, Laurent Guimier et l'actu pour les nuls. Et puis dans la deuxième heure, le grand débat d'Europe 1 soir avec cette question: comment en finir avec la surpopulation dans les prisons?
Europe 1 soir.
À Perpignan, le père d'Alison, disparu à la mi-juillet avec sa mère, a donc mis fin à ses jours.
Francisco Benitez a été retrouvé pendu à son travail dans une caserne de la Légion. C'était un témoin capital dans la disparition de la jeune fille de 19 ans et de sa mère Marie-Josée, car il était le dernier à les avoir vues vivantes. Alors il s'est suicidé après avoir rédigé un message dans lequel il confiait qu'il ne supportait plus les soupçons qui pesaient sur lui, Guillaume Bier.
Oui, d'après nos informations, c'est dans un courriel envoyé la nuit dernière à sa hiérarchie militaire que Francisco Benitez a exprimé son intention d'en finir. Il portait son uniforme ce matin lorsque son corps a été retrouvé pendu près de son bureau dans la caserne Joffre. Et dans le texte qu'il a laissé, il clame son innocence, soulignant d'après le procureur qu'il n'a rien à voir avec la disparition de sa femme et de sa fille Alison. Dans ces quelques lignes, il explique en résumé qu'il ne supportait plus sur internet et dans la presse les commentaires suggérant qu'il pourrait être mêlé à cette double disparition. Alors, cette pression de l'opinion, il l'a aussi dénoncé dans un message vidéo poignant qu'il avait enregistré hier et que nos confrères de Paris Match ont diffusé sur leur site internet. En voici un extrait.
Le plus dur pour nous, ça a été de lire des choses que les gens commentaient et disent sans savoir que je suis pas dans la vie privée des gens. Les gens qui me connaissent vraiment, ils savent très bien que pour moi, Alison, c'est ma vie. Il y a beaucoup de choses qui nous passent dans la tête. Et on tient, mais c'est trop dur. Il y en a à la limite d'exploser. J'espère que ma fille sera retrouvée, ainsi que sa maman. Même si aujourd'hui, je peux dire que je ne suis pas optimiste du tout.
Même si aujourd'hui, je peux dire que je ne suis pas optimiste du tout, ce sont ces derniers mots qui résonnent ce soir de manière posthume.
Alors Guillaume, est-ce que son suicide dissipe pour autant les soupçons qui pesaient sur lui?
Alors, pas du tout, parce que même s'il clame son innocence dans son message, Francisco Benitez était pour la justice un témoin capital, le dernier à avoir vu Alison et sa mère vivantes. Et son suicide peut s'interpréter de plusieurs manières, insiste le procureur adjoint de Perpignan, Luc-André Lenormand.
Ça peut être aussi un aveu de quelqu'un qui a commis quelque chose de très grave et qui préfère disparaître sans donner d'autres explications. Ce sont deux hypothèses. Soit il est pour quelque chose et il ne supporte pas d'avoir commis un fait grave, hein, soit il ne supporte plus les commentaires qui se répandent sur Internet et dans les journaux.
La police judiciaire va donc devoir élucider les raisons exactes de ce suicide, sachant qu'Alison et sa mère, elles, sont toujours portées disparues depuis maintenant 3 semaines.
Guillaume Bié. Le pédophile espagnol remis en liberté après une grâce du roi du Maroc vient d'être arrêté. On vient de l'apprendre par le ministère de l'Intérieur espagnol. Le pédophile espagnol avait été remis en liberté alors qu'il avait été condamné à 30 ans de prison pour viol sur 11 enfants. Et il en avait profité pour fuir en Espagne, Arthur Nbaché.
Oui, il a été arrêté ce matin dans la ville de Murcie, à 500 km au nord de Gibraltar. Il a parcouru cette distance en quelques jours après avoir passé la frontière au niveau de l'enclave espagnole au Maroc, Ceuta. Alors que les Espagnols vont-ils faire de lui ? Eh bien sans doute l'emprisonner et lui faire purger le reste de sa peine en Espagne. On a appris cet après-midi qu'en fait, les autorités espagnoles avaient transmis au roi Mohamed VI une liste de 18 prisonniers à gracier, si possible, et une liste de 30 prisonniers à simplement transférer en Espagne pour qu'ils fassent leur période de prison en Espagne. Et apparemment, le roi Mohamed VI, soit mal informé, soit dans une sorte d'élan de générosité, si on peut dire, a décidé de gracier tout le monde, les 48 prisonniers. Et du coup, finalement, avec cette arrestation qu'on vient d'apprendre, on en revient à ce qu'avaient demandé les autorités espagnoles.
Alors Arthur, on commence vraiment à en savoir un petit peu plus sur le profil de ce pédophile. Il s'appelle Daniel Galván.
Et si le pédophile espagnol était aussi un espion irakien ? Question posée dans un premier temps ce matin par un journal marocain. Et cet après-midi, le quotidien espagnol El País va dans ce sens. Daniel Galván, dit le journal, n'est sans doute pas le vrai nom du pédophile qui est né à Bassora, en Irak, de père et de mère irakien. Alors quel rapport avec ses agissements pédophiles au Maroc et la grâce royale de Mohamed VI ? Eh bien il est probable que Galván ait contribué comme agent secret au renversement de Saddam Hussein en 2003. Ensuite il aurait été accueilli par l'Espagne qui, pour le remercier et pour le protéger, lui aurait donné une nouvelle identité avant qu'il ne parte pour le Maroc. Et là, un journal marocain estime qu'il aurait eu le comportement d'un homme qui commet des crimes sans craindre les conséquences, comme s'il bénéficiait, je cite, d'une protection particulière, celle des services secrets espagnols, des services qui auraient tout fait pour que Galván figure ensuite dans la liste des prisonniers que le roi du Maroc a gracié la semaine dernière, mais c'est une version incomplète et pas vérifiée.
Merci Arthur Nbaché. En Turquie, l'ex-chef d'état-major de l'armée a été condamné à la prison à vie pour son rôle dans un complot qui visait à renverser le gouvernement. 3 autres peines de prison ont été prononcées pour des parlementaires d'opposition. Et puis, l'ambassade de France au Yémen reste fermée jusqu'à mercredi inclus. La décision a été prise par le ministère français des Affaires étrangères en raison d'un risque élevé d'attentat.
Plus de 3 semaines après l'accident de Brétigny-sur-Orge, les trains circulent à nouveau sur la voie.
Alors si la chaleur est venue perturber la circulation cet après-midi, car elle provoque la dilatation des rails, eh bien tout est fin prêt pour la reprise du trafic, Simon Rubin.
Oui, et quelques trains sont déjà passés. Ce matin, ils se sont arrêtés. Cet après-midi, plus rien, vous l'avez dit, à cause de la chaleur. Mais vous le disiez également, tout est prêt. On sent encore d'ailleurs ici l'odeur de peinture fraîche. Les derniers travaux de finition ont pris fin ce matin. Et en 3 semaines, le quai a donc été refait à neuf. Un exploit, explique Philippe Ouvrier sur le chantier.
Oui, c'est un gros travail, oui, tout à fait. Ouais. Où il faut passer quelques heures dessus et ça n'a pas été facile avec la chaleur. Ça tournait en 3-8, hein. Il y avait nuit, jour en permanence, ouais. Plus d'une centaine de personnes, ouais, pour pouvoir faire la remise en état, hein. Sinon ça ne roulerait pas au jour d'aujourd'hui. Hein.
Et sur le quai, les barrières neuves brillent sous le soleil. L'éclairage est lui aussi flambant neuf. Aucune trace visible de l'accident meurtrier, du moins sur le quai. Car dans les têtes, la peur est encore vivace. Jérôme, usager, a d'ailleurs de l'impréhension à chaque approche de train.
Quand on voit les trains qui arrivent, qui passent à 130 et maintenant je pense qu'ils passent à 50, 60, bon, on y pense quand même toujours un petit peu. Hein, surtout tout ce qui s'est produit avec les trains ces derniers temps, ouais, on y pense.
Et comme le dit Jérôme, la réouverture du quai ne doit pas masquer l'autre reconstruction, celle des usagers encore marqués par l'accident.
Merci Simon Rubin.
Les restaurateurs font grise mine.
Oui, le mois de juillet a été catastrophique avec une baisse historique de l'activité. Cela concerne les traiteurs, les restaurateurs et les grandes enseignes de restauration. Les consommateurs sont frileux et regardent de près à leurs dépenses.
Sur les cocktails, le soir, il n'y en a pratiquement plus. Les remontées de plage qui se faisaient à 100 vers 17h, 18h, où là, les gens prenaient une crêpe, prenaient une consommation fraîche et tout ça, il n'y en a plus. On s'aperçoit que les gens sortent de la plage plus tard possible, rentrent à la maison ou mangent une glace à 18h30 et viennent pas dîner le soir. Donc là, on voit vraiment que les habitudes ont changé, là, c'est clair. Les gens vont faire leurs courses, dînent à la maison et sortent beaucoup moins. Au niveau secteur de restauration. On ne peut plus faire les journées habituellement qu'on faisait sur les fronts de mer, c'est-à-dire un service le midi, un service d'après-midi avec les limonades, les crêpes et les glaces, et le service du soir. Donc là, il reste 20 jours en août. Est-ce que les Aoussiens consomment plus ? Pas forcément, mais la masse va peut-être compenser le manque à gagner qu'on a eu. Mais de toute façon, ce qui est perdu est perdu.
Le coup de blues d'un restaurateur de Royan avec Marguerite Lefebvre.
Dans un instant, nous prendrons connaissance du rapport que prépare le Haut Conseil à l'intégration. Il préconise notamment d'interdire le port du voile à l'université. Ce sera notre dossier juste après la pause. A tout de suite.
Europe 1 soir. Europe 1 soir.
Vous écoutez Europe 1, 18h12, la suite du journal Marielle Fournier, Emmanuel Faux.
Et donc cette question, faut-il interdire le port du foulard à l'université ?
C'est en tout cas ce que préconise le Haut Conseil à l'intégration, qui doit présenter un rapport à la fin de l'année. Il justifie cette proposition par une recrudescence du nombre de contentieux dans les salles de cours, sur les bancs de la faculté, Anne Le Gall.
Oui, selon ce rapport, il y a dans les universités de plus en plus de problèmes liés à la religion. Les auteurs citent par exemple le refus de la mixité dans des groupes de travail parmi les étudiants, la demande du respect des interdits alimentaires ou l'exigence de la création de lieux de culte à usage communautaire. Pour défendre la laïcité, ce rapport préconise donc notamment d'interdire à l'université les signes d'appartenance religieuse comme le voile. Autant de constats et de propositions que l'Observatoire de la laïcité, le destinataire du rapport, prend avec beaucoup de pincettes. Pour Nicolas Caden, le rapporteur général de l'Observatoire, interdire le foulard par exemple n'est pas du tout à l'ordre du jour.
C'est un avis parmi d'autres qui a été émis en mars dernier par la mission laïcité du Haut Conseil de l'intégration, mission qui n'est aujourd'hui plus en fonction. C'est un avis assez net, mais qui est un avis parmi d'autres. Et donc, l'Observatoire n'a pas encore d'avis de religion sur la question, si je puis dire. Et se penchera peut-être sur cette question, mais ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui.
Et s'il est vrai que l'Observatoire de la laïcité doit faire à la fin de l'année toute une série de propositions sur le respect de la laïcité dans les lieux collectifs, l'université ne fait pas partie des thèmes de travail prioritaires. Il y a en revanche dans les tuyaux un livret d'informations sur le bon usage des signes religieux en entreprise.
Anne Le Gall. Bonsoir Lionel Lucas.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes député UMP des Alpes-Maritimes et vous êtes surtout ancien membre de la mission d'enquête parlementaire sur le port du voile intégral. Je voudrais déjà vous demander votre réaction. Que pensez-vous de cette proposition qui concerne, on est bien, il faut être clair, hein, c'est le foulard et ça n'a rien à voir avec le voile intégral, là. Donc oui, d'interdire absolument le port du foulard à l'université.
J'ai fait partie aussi de la mission d'information parlementaire sur le voile à l'école. Donc, pour ma part, je me suis toujours étonné qu'on se limite simplement aux établissements publics primaires et secondaires et que ceux qui sont supérieurs soient écartés de cette problématique. Et je me réjouis que le Haut Conseil à l'intégration l'évoque pour la première fois.
Alors, il avance pour ça une montée, on va dire, des contentieux, hein, une recrudescence des contentieux sur ce sujet à l'université. Est-ce que vous avez des retours de ça, justement ?
Oui, absolument. Un petit peu partout, les questions se posent. Elles sont certes, selon les facultés, très minoritaires et peut-être plus importantes sur d'autres, mais il y a une sorte de prosélytisme qui confine à la provocation et on ne voit vraiment pas pourquoi des groupes minoritaires devraient imposer leur façon d'être, d'exister dans un pays qui se flatte de mettre la laïcité en référence. Donc je pense que sans passionner le débat inutilement, prendre des mesures qui aujourd'hui s'avèrent efficaces à l'école primaire comme dans les établissements secondaires peut éviter ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on refuse la mixité, on refuse de vivre ensemble.
Ça peut donc aider à une meilleure intégration, mais vous, que proposez-vous de votre côté justement pour favoriser cette intégration ?
Écoutez, le respect des règles de la République française, c'est un principe de base, donc il faut faire de la pédagogie et faire les choses en expliquant et en évitant un débat souvent politicien en la matière. Mais je pense qu'il faut la fermeté. La République, c'est d'abord la fermeté sur ses convictions et permettre à tous de travailler ensemble, puisque c'est un lieu de travail et de réflexion, de permettre aux enseignants d'enseigner, parce qu'il va arriver un moment où les enseignants ne pourront plus choisir non plus les thèmes qu'ils souhaitent enseigner. Par exemple, il s'avère que la laïcité ne doit pas être enseignée pour certains. Ça confine à un obscurantisme insupportable dans une république laïque.
Lionel Lucas, le journal Le Monde qui paraît ce soir se fait l'écho d'un sondage qui indique que près de 80% des Français souhaiteraient l'extension de l'interdiction du foulard au monde de l'entreprise, donc au secteur privé. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller jusque-là ?
Moi, je pense qu'il faut aller jusque-là. J'ai co-signé une proposition de loi d'Éric Ciotti qui a été pour le moment balayée d'un revers de main. Mais on a vu toutes les conséquences que ces phénomènes peuvent avoir sur la crèche il n'y a pas si longtemps, où le bilan, ça a été qu'on a supprimé la crèche, puis on est parti ailleurs, quoi. Voilà. Donc, on laisse se constituer des ghettos. Et après, on s'étonnera d'avoir les éléments les plus extrémistes qui prendront les choses en main. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un consensus républicain en la matière. S'il existe déjà dans les sondages, il serait bon que la classe politique ne capitule pas et prenne ses responsabilités.
Merci Lionel Lucas d'avoir été en ligne avec nous en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes député UMP des Alpes-Maritimes.
Et on le sait, Marielle, la réforme de la rentrée sera, la réforme des retraites va être le dossier chaud de la rentrée.
Oui, une réforme que prépare la ministre Marisol Touraine en souhaitant lui donner d'ailleurs une orientation sociale de gauche. Parmi les pistes envisagées, celle de prendre en charge la pénibilité du travail pour que les salariés cumulent des points supplémentaires. Le dispositif coûterait environ 2 milliards d'euros, en partie financé par les entreprises. Pour Bruno Dumas, président de la Fédération française du bâtiment de Midi-Pyrénées, non seulement les entreprises vont être encore sollicitées et donc ponctionnées, mais elles vont être confrontées à un véritable casse-tête.
Quel va être les travaux pénibles? Quand vous êtes menuisier, par exemple, quelle est la partie pénible, quelle est la partie pas pénible? Si vous êtes à l'atelier, c'est peut-être pas très pénible. Si vous posez des menuiseries au cinquième étage et qu'il faut les monter à la main, c'est peut-être plus pénible. Pareil pour les maçons, enfin tous les corps de métier dans le bâtiment, il va falloir définir quelle est la partie de leur travail pénible et laquelle ne l'est pas. Ça va être terrifiant au niveau de la gestion administrative. Je rappelle que la quasi-totalité des entreprises dans le bâtiment ont moins de 10 salariés. C'est vraiment une réflexion d'énarque dans un cabinet climatisé où on ne se pose pas vraiment la vraie question. Dernièrement, la cerise sur le gâteau, c'est le terme utilisé qui est la réparation. Est-ce qu'on doit vraiment s'excuser de faire travailler des gens? Il faut qu'on me le dise. Ça s'inscrit tout à fait dans la logique de l'esprit qu'il y a aujourd'hui de certains politiques et qui est finalement les entreprises, c'est vraiment un fléau pour le pays. Il vaudrait mieux qu'il n'y en ait pas, ce serait plus sain.
Voilà donc l'avis de Bruno Dumas, président de la Fédération française du bâtiment de Midi-Pyrénées, interrogé par Julien Pierce.
Le week-end a encore été endeuillé sur le littoral.
Et oui, la série noire continue avec les noyades souvent dues à l'imprudence des vacanciers qui ne respectent pas le drapeau rouge. Alors faut-il verbaliser ceux qui bravent les consignes de sécurité? La question est en tout cas sérieusement posée depuis que le préfet de l'Hérault a adressé un courrier dans ce sens aux 13 maires du littoral du département. En ce qui concerne la façade atlantique, là aussi, les baigneurs sont appelés à être vigilants. Le reportage à Royan, Charente-Maritime, de Marguerite Lefebvre.
Liliane sort de l'eau après son troisième bain de la journée. La mer est calme, le drapeau vert, la baignade agréable. Mais à 72 ans, ce qu'elle préfère, ce sont les vagues, même si elle s'est parfois fait peur.
Je perds facilement l'équilibre quand elles sont fortes. Vu mon âge, quand je suis par terre, il faut un appui pour me relever.
Une fois, vous vous êtes retrouvée par terre?
Oui, et avec ma petite fille, elle essayait de me relever, mais elle n'arrivait pas, c'est un brave monsieur qui m'a dit « Voulez-vous que je vous aide ?» Voilà. Je fais attention, mais ça m'est arrivé sur la grande plage de recommencer. Parce que j'aime bien les vagues. C'est un jeu, c'est une distraction.
Liliane connaît ses limites, mais elle préfère s'amuser. Et c'est justement cela le problème des baigneurs plus très en forme ou qui ne savent pas bien nager et qui foncent quand même dans l'eau dès les premiers jours de l'été. C'est ce que regrette Johan Valdec, il est chef des maîtres nageurs sauveteurs à Royan.
Malheureusement, on est confronté à ça quasiment tous les jours. Des gens qui se sentent un petit peu plus forts qu'ils ne le sont en réalité. Ils vont aller nager plus loin et parfois ils vont se retrouver dans un petit courant. Parfois quand on les récupère, ils ne se rendent pas vraiment compte, ils ne voyaient pas dériver, pour eux tout va bien. Ils ne veulent pas vraiment admettre qu'ils étaient en difficulté.
Ne pas nager hors des zones de baignade, c'est le message des sauveteurs. Ici, la seule noyade de l'été a eu lieu dans un lieu de baignade interdite. Royan, Marguerite Lefebvre, Europe 1.
Les orages de vendredi soir dans le sud-ouest ont dévasté les vignobles du Bordelais.
La Chambre d'agriculture de Gironde annonce 10 000 hectares de vignes touchées par la grêle et les vents violents et certaines parcelles, Carole Ferry, sont entièrement détruites.
Oui, environ 7 000 hectares de vignes complètement ravagées par la grêle. C'est la zone de l'Entre-deux-Mers qui a le plus souffert, une appellation que l'on connaît bien en vin blanc, mais qui est aussi un territoire sur lequel on produit des Bordeaux supérieurs rouges. Aucun grand cru toutefois, ni aucun château n'ont été touchés. A priori donc pas d'impact à prévoir sur la production globale. Les conséquences sont en revanche catastrophiques localement pour certains producteurs qui ont tout perdu, selon Cédric Elia de la Chambre d'agriculture de Gironde.
Moi je vois une situation que je ne connaissais pas dans ma vie professionnelle. C'est une vigne dans laquelle 100% des feuilles sont détruites et 100% des raisins. Moi je suis né dans le vignoble bordelais et donc malheureusement on connaît les misères du temps avec la grêle. Mais là devant un phénomène comme ça, ça reste tout à fait exceptionnel et rarissime. Et malheureusement hier matin on a trouvé des gens qui étaient en pleurs dans leur vigne, quoi, parce que quelqu'un qui perd une récolte, c'est un grand désespoir.
Une situation d'autant plus dramatique que moins de 20% des agriculteurs sont assurés contre la grêle. Le président socialiste de la Gironde, Philippe Madrelle, demande au gouvernement le déblocage d'aides exceptionnelles pour soutenir les viticulteurs les plus touchés.
Carole Ferry.
Vous restez avec nous et juste après la pause, on fêtera les 100 ans de l'invention des mots croisés et on vous proposera un burger in vitro. Si, si, ça existe. A tout de suite.
Europe 1 soir.
18h23 sur Europe 1, la suite du journal. Marielle Fournier, Emmanuel Faux.
D'abord la natation et on revient sur cette belle moisson de médailles françaises aux Mondiaux de Barcelone.
Une jolie vague bleue, effectivement, avec au total 9 médailles, ce qui place la France en 3e position dans le classement des pays médaillés, juste après les États-Unis et la Chine. Hier, Camille Lacour a réalisé un doublé. Il a ainsi marqué son grand retour sur les podiums. Coup de chapeau aussi à Yannick Agnel, à Jérémy Stravius. Mais ces champions-là seront-ils capables de rester les meilleurs dans leur discipline dans 3 ans, c'est-à-dire pour les prochains JO? Écoutez ce qu'en pense Lionel Horter, le directeur technique national.
Vous savez, en 2012, il y a un seul sportif dans la natation qui a réussi à garder son titre. Et ce sportif, il est très connu, il s'appelle Michael Phelps. Que ce soit en homme ou en femme, il n'y a aucun autre nageur qui a réussi à garder son titre. Donc les nageurs français qui ont brillé en 2012 à Londres sont prévenus. C'est un exercice très très difficile, de haute voltige, de pouvoir conserver ce titre. Et donc, on va évidemment essayer de travailler à produire cet exploit. Nous avons 2 ans maintenant, puisque la prochaine compétition mondiale est dans 2 ans en Russie, à Kazan. L'année prochaine, nous avons un championnat d'Europe, cette compétition étant une compétition qui nous servira plutôt de revue d'effectifs, où il y aura des jeunes qui sont intégrés dans l'équipe. Nous avons 2 ans pour prendre les bonnes décisions, pour bien travailler, et puis pour essayer évidemment d'être le plus performant possible à Rio en 2016.
C'était Lionel Horter, le directeur technique national de la natation française au micro Europe 1 de François Claus. Vous prendrez bien un petit peu de burger in vitro. Alors ça n'est pas une plaisanterie, il a été fabriqué à partir de cellules souches de vaches sans manipulation génétique. Il a été testé pour la première fois aujourd'hui, ça s'est passé à Londres. Alors le burger a-t-il été savoureux? Réponse à Londres de Marie Billon.
Il a été cuit comme n'importe quel steak à la poêle avec de l'huile et du beurre. Et puis le premier steak éprouvette a été servi à 3 volontaires. Son créateur, le docteur Mark Post, un critique culinaire, et Annie Rutzler, une nutritionniste.
Le goût est assez intense, ça ressemble beaucoup à de la viande même si ce n'est pas aussi juteux. Je ne l'ai pas trouvé très moelleux non plus.
Le steak est 100% muscle, aucun gras n'a été rajouté, aucune autre valeur nutritive non plus. C'est un prototype, rappelle son créateur, Mark Post.
Nous avons prélevé du muscle chez une vache. Cet échantillon contient des cellules capables de réparer les tissus quand il y a blessure. Ainsi, les cellules se multiplient afin de former un tissu musculaire qui va ensuite former une fibre de muscle. Cet hamburger contient 20 000 fibres de muscle.
Un processus lent, 3 mois pour créer un steak. Mais il faudra encore plus de temps aux scientifiques pour faire frétiller les papilles des consommateurs. Le docteur Neil Stevens est sociologue à l'université de Cardiff.
Il n'y a rien de normal dans ce burger, c'est complètement bizarre. La science apporte des modifications à la viande depuis longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, c'était toujours un animal qu'on tue pour en manger des morceaux. Et là, c'est plus le cas.
Alors même si le Frankensteak ne demande le sacrifice d'aucune vache et a une empreinte écologique réduite, avant de le trouver dans son supermarché, il faudra qu'il se soit fait une réputation.
C'était donc Marie Billon, la correspondante d'Europe 1 à Londres.
C'est là où on voit qu'on fait quand même un métier un peu dangereux. essayer le burger à Londres. Les cruciverbistes le savent sans doute, les mots croisés affichent un siècle tout rond d'existence.
Oui, le jeu donc a fait son apparition il y a 100 ans, hein, je calcule bien, mais c'était parfait. Aux États-Unis et il a fallu attendre plus de 10 ans en France, Thierry Geoffrotin, pour les voir apparaître enfin dans la presse.
Exactement 11 ans, Marielle, après la première grille parue dans un journal américain, la France découvre à son tour ce jeu de l'esprit qui a la particularité de déclencher des tempêtes sous les crânes. Nous sommes le 9 novembre 1924 et les premiers mots croisés en français paraissent dans le Dimanche illustré. Et pour un coup d'essai, ce ne fut pas un coup de maître, mais une catastrophe. La grille est truffée d'erreurs, cases noires mal placées, oubli d'une définition. Bref, c'est mal parti, mais ce n'est qu'un mauvais départ. En 89 ans, les mots croisés ont acquis leur lettre de noblesse et un statut bien à part dans les journaux. Et si vous en voulez une preuve, écoutez plutôt un verbicruciste, autrement dit un créateur de mots croisés, a reçu il n'y a pas si longtemps cette consigne de la part d'un rédacteur en chef. Ne fais pas des grilles trop compliquées, le lecteur doit avoir du temps pour lire le reste du journal. Conseil d'un pro pour débuter une grille, placez d'abord les pluriels, une majorité de S donc, très peu de X, et les verbes conjugués. Quant aux grilles supposées difficiles, c'est plutôt une affaire de tournure d'esprit que de définition et de culture. On s'y retrouve toujours quand on a une affinité avec l'homme qui fait les grilles. Un secret de fabrication à présent, secret de verbicruciste, c'est Yves Cuneau, le président de l'association À la croisée des mots, qui nous le donne.
Quand on vous dit un verbicruciste, on pense à un homme qui à la fois compose une grille et écrit les définitions. Nous avons d'excellents créateurs de grilles et nous avons d'excellents composeurs de définitions.
Ils sont deux.
Eh bien, nous arrivons à faire certaines grilles à 6 ou à 8. On avait des gens qui faisaient de très bonnes grilles, mais les définitions étaient plates. On les a données à des gens qui font de super définitions et on arrive à finalement un travail collaboratif passionnant.
Une définition pour finir, Marielle, signée Michel Laclos, célèbre verbicruciste décédé en mai dernier. Bonne en dessin. Bonne en dessin. Allez, je vous le dis.
Langoucha, oui.
Bécassine. Bonne en dessin.
Ah oui, oui.
Personnage de bande dessinée, Bécassine.
Oh, oui, absolument. Bonne en dessin. Oula,
vous en voulez un autre?
Oui, oui, oui.
Fait aller au cabinet.
Oula.
ENA. École nationale d'administration, fait aller au cabinet, oui, des ministères.
Et en patron du cabinet, Thierry, est-ce que vous savez, paraît-il, c'est une des plus célèbres,
vide,
des mots croisés.
Oui, vide les corbeilles.
Vide les baignoires.
Les baignoires remplies
et remplies de lavabos.
Entracte.
Entracte.
Entracte, formidable.
Voilà, par exemple, on a déjà donné trois, hein, qui sont dans la même grille, on vous a fait progresser. Merci beaucoup Thierry Geoffrotin. On passe à la météo avec Valérie Darmon. Et Valérie, de nouveaux orages sont à l'horizon la nuit prochaine.
Et oui, et du coup, on a 8 départements en vigilance orage violent. Des départements du centre-est, Bourgogne, Allier, Cantal, Loire et Puy-de-Dôme. Pour le moment, il n'y pleut pas, sauf peut-être en Auvergne, de manière un peu éparse, un peu sporadique. Mais progressivement, la météo va devenir plus instable sur le nord du massif central et puis en Bourgogne. Donc risque de grêle, de fortes rafales de vent jusqu'à 100 km/h à partir de 5h du matin. Ces orages violents qui se déplaceront ensuite en direction de la Champagne. Et puis du plateau Lorrain où il devrait pleuvoir toute la journée de demain et aussi toute la journée de mercredi. Mais on ira vers l'amélioration à partir de mercredi après-midi et surtout jeudi. Ailleurs, si ce n'est pas orageux, c'est pas forcément mieux. C'est très très nuageux partout et pluvieux tout autour de cette zone orageuse, y compris sur la région parisienne. Le pourtour méditerranéen n'est pas épargné non plus avec sur le Languedoc-Roussillon un ciel très nuageux le matin et quelques ondées et un ciel voilé avec de rares ondées ailleurs. C'est en Rhône-Alpes et sur la Côte d'Azur qu'il fera le plus sec et le plus ensoleillé.
Et du coup, Valérie, le mercure baisse.
Et oui, forcément, sous les orages, avec la pluie, il fera 23 à 27 sur l'ouest et 25 à 32 sur l'est. En après-midi, nous aurons 24 à Lille et Nantes, 25 à Évreux, 26 à Saint-Étienne et à Paris, 30 degrés à Lyon, 31 à Toulon, 32 à Grenoble et 33 à Avignon. Ces températures qui remonteront en fin de semaine.
Merci beaucoup Valérie Darmon, qui revient bien sûr à 19h pour d'autres prévisions.
Europe 1 Soir.
18h31 sur Europe 1. Europe 1 Soir continue avec vous, Emmanuel Faux.
Et dans 5 minutes, c'est Jean-Charles Brizard, consultant international et spécialiste du terrorisme, qui sera l'invité d'Europe 1 Soir. Mais tout de suite, l'essentiel de l'actualité de ce lundi 5 août avec Marielle Fournier.
À Perpignan, le père d'Alison s'est suicidé après avoir adressé un message dans lequel il disait ne plus supporter les soupçons qui pesaient sur lui 3 semaines après la disparition de la jeune fille de 19 ans et de sa mère. Le pédophile espagnol remis en liberté après une grâce du roi du Maroc
vient d'être arrêté. Il a été interpellé en Espagne où il s'était réfugié. Je vous rappelle que le roi du Maroc avait annulé hier soir la grâce qui le visait. Faut-il interdire le port du voile à l'université? La proposition émane du Haut Conseil pour l'intégration, et ce pour éviter les conflits qui ont tendance à augmenter dans les facultés. Les entreprises vont-elles devoir payer davantage pour que la pénibilité du travail soit prise en compte dans le calcul de la retraite? Le système risque de tourner au casse-tête, en tout cas pour les entreprises. C'est une piste de la réforme des retraites, le dossier chaud de la rentrée. La Bourse de Paris finit en légère hausse de 0,1% à 4050 points. 10 000 hectares au total ont été touchés par les orages vendredi soir en Gironde. C'est le chiffre avancé ce soir. Certaines parcelles ont vu leurs vignes totalement détruites. Et puis les restaurateurs ont le moral en berne. La consommation a chuté au mois de juillet, une baisse historique.
Merci Marielle, et on se dit à demain.
À demain. Europe 1 soir.